France Inter.
C'est la bande originale, soyez bienvenue avec Leïla Kadhafi, Isabelle Moitié, Ma Beaujean, Julien Santini, Oldelat, Tanguy Bacho, évidemment, Daniel Morin, et nos invités Isabelle Carré et Bernard Crapaud.
Bravo.
Bande originale, Leïla Kadhafi et Nagui.
Il est fort, ce Nagui.
Bienvenue, Bernard et Isabelle. Oui, vous avez bien fait. Et puis
c'est la
surtout,
première.
Vous faites du bien de rester.
Et c'est vachement dur d'applaudir et de parler en même temps.
Ah, mais on a des stages, monsieur. Nous, on a raté le stage marcher et parler en même temps parce qu'on reste assis.
Sinon, on tombe.
Ça, on ne sait pas faire. À partir du 18 septembre prochain, vous serez sur scène au théâtre de la Renaissance pour Un pas de côté, une pièce d'Anne Diaferi. On va appeler ça une comédie romantique, Isabelle ?
Oui.
Ah oui,
ah, vous avez une grosse
voix. Moi, Isabelle,
en fait,
je te réponds.
Quand tu t'adresseras
oui.
à moi, ça sera Bernard.
Voilà.
On va faire comme ça. L'inverse est vrai.
Oui, je suis d'accord. Comédie romantique.
Totalement romantique.
Alors, je trouve que c'est très bien ça.
Avant d'attaquer, qui fait le premier pas, Lisa, quand tu veux draguer ou pas ? Est-ce que tu attends qu'on vienne ?
Non, je fais assez facilement le premier pas quand je ne connais pas la personne.
C'est original,
après que ça.
Ça
se complique.
Ouais, voilà.
Ouais, quand c'est quelqu'un de la famille, c'est plus compliqué.
Oui, c'est plus des limites.
Emma, est-ce que tu es du premier pas?
Ouais,
ou
carrément,
non
de ouf. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, ça déstabilise les gens que je drague.
Bien sûr.
Mais dans le cadre de la loi et tout, ils sont consentants et tout, tu vois. Mais je suis sûre que des fois, c'est un peu déstabilisant. Parce que vraiment, quand un mec me plaît, je vais le voir et je dis, excuse-moi, tu me plais, quoi. Voilà.
Okay. Ah oui, ça va très vite en plus.
Je suis sûre.
Quand même, excuse-moi, tu dis.
Je me permets, je sais, pardon. Mais on gagne du temps, quoi. C'est hyper pratique.
Le temps, c'est précieux.
Premier pas ou
premier pas, oui, premier pas. Après, ceux qui font le premier pas, souvent, c'est ceux qui t'intéressent pas.
Ça. Alors, je le prends juste personnellement, en fait.
Non, parce que moi-même, faisant le premier pas,
oui. Voilà. Ok, Julien, est-ce que tu fais le premier pas? Est-ce que tu as fait le premier pas? Parce que maintenant, tu es évidemment fidèle et tu ne bouges plus.
Bah non, en fait, j'ai jamais vraiment eu à le faire. Et c'était même déstabilisant parce que j'ai eu cette chance que, sans que j'explique pourquoi, ça venait assez facilement.
Ça venait,
t'es malade de faire ça.
C'est en fait, quand je dis ça, je peux m'expliquer parce que là, je passe vraiment pour un.
Ouais. Non,
c'est mort, c'est mort. Venez très facilement.
C'est mort. Quand tu dis, c'est mort.
Le mec est fou.
Non,
génial.
Ça, tu veux dire la situation.
La situation, bien
évidemment.
Entendu. Je t'aime, Nagui.
Tu passeras pas le week-end.
Hey, je sens que je vais me faire engueuler ce soir par Lila.
Juste avant le bisou, bon night. Good night. Olaf, tu fais le premier pas ou pas ?
Moi, évidemment, le premier pas.
Oh, wow. Oui.
J'aimerais qu'elle fasse le premier pas.
Oui, j'adore.
Qui a mis la pièce ? Qui
a mis la pièce ? Michel
Daniel.
Oui, moi je fais le premier pas, mais comme ça marche pas, je fais aussi le deuxième, le troisième, le quatrième.
Tu m'as piqué.
La course de fond, quoi.
Le premier sprint.
Le harcèlement.
De toute façon, bientôt il y aura un mur.
Ouais, c'est ça. Et avec des barbelés. Ouais. Ça s'appelle une prison, monsieur, là où on veut vous mettre.
Je connais bien Nagui.
Oui, moi je suis comme Daniel, c'est pas le premier pas, c'est le.
Le char d'assaut.
Oh là là.
Une randonnée.
C'est la lourdeur. C'est du mec qui fait non, mais pars pas. Qui continue de marcher pendant que la jeune fille s'en va. Isabelle, est-ce que tu fais le premier?
Ah non, moi c'est la méthode wait and see.
Ah ok, d'accord.
Ah oui, très lâche.
Il faut qu'on vienne.
Oui,
d'accord. Mais est-ce que par exemple, il y a le eye contact? Est-ce qu'il y a quand même au
même
moins...
Pas.
Même pas le
même
regard
pas.
Pour
je
dire...
regarde mes chaussures, je rougis. Je bafouille, et j'attends que ça se passe, voire je me cache derrière une porte.
Vous êtes désirable, dites-moi.
Oui.
Mais vous pouvez passer
j'ai
à côté.
J'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien.
Ah, voilà.
Vous pouvez passer à côté de plein d'occasions ratées.
Absolument. D'où cette pièce où je me venge quand je joue. Je suis beaucoup plus volontariste dès qu'il y a 500 personnes dans la salle. C'est très étrange.
Il y a des endroits pour ça, hein, si vous voulez qu'il y ait du monde pour faire le premier pas. Non. Bernard.
Ah, ça y connaît.
Premier pas, ouais.
L'avez-vous fait ?
Oui, mais c'est souvent la femme qui fait le premier pas en arrière quand je fais le premier pas.
Oh, joli !
Non, c'est vrai.
Un beau tango.
J'ai tenté, mais non, c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt wait and see, moi aussi.
C'est vrai ? Bon. Vous avez galéré pour...
Pour en arriver là ?
Oui, non. Mais pour votre histoire d'amour, celle que vous vivez en ce moment, c'était... je parle pas au théâtre, hein, je parle dans la vie.
Oui.
Ça a été une galère pour la convaincre.
Il m'a fait peur,
non,
c'est ça, oui. Moi aussi, j'ai eu peur.
révélation.
Non, non, ça a été aisé, évident, et voilà.
Ah, mais c'est elle qui a fait le premier pas.
Non. Non, c'était à... Si, quand même. Genre, moi, j'ai quand même... je l'ai un peu attiré vers moi, ouais.
D'accord, d'accord.
Ça.
C'est la danse.
Non, il n'a pas dit ça.
C'était dans une boîte, il a dansé. Et... c'était ça.
Non, je l'ai invité chez moi, on a débouché le champagne. Puis voilà,
un pas de côté... Ah, t'es serveuse, voilà. Le mec a raconté. T'es serveuse. Un pas de côté, c'est au Théâtre de la Renaissance. On en parle jusqu'à midi et demi, mais voici le fan number one, Hall de l'art, d'Isabelle Bernard.
Je suis fanman d'Isabelle Carré, c'est une vedette de France Inter dans la terre au carré. Vous êtes abonné ici, je pense que vous êtes inscrite. Au bout de 10 fois, vous avez le droit à une chronique gratuite. Je suis fan de Bernard Campanca, vous prouvez qu'on peut être cool et s'appeler Bernard. Je suis un de vos fans et avec tous les fans de Campan, on se retrouve tous les étés à faire du camping géant. Et vous êtes là pour la pièce sympa de côté. Je crois que ça parle du Madison et des gens humilié, qui essaie de danser ça aux fêtes et au mariage.
Oh
ouais, moi c'est une danse assise quoi. Et qui arrive jamais cette pièce leur rend hommage. Ouais, je suis fan de cette pièce sur un banc. Je sais plus si vous aviez joué ensemble avant. M'asseoir sur un banc tous les soirs avec toi, regarder le public s'il y en a, et prendre du bon temps, théâtre ou cinéma, en serrant le bonheur chaque fois. Puis s'inventer des rôles de génie ou d'idiot, s'engueuler même parfois pour de faux, et entendre frémir chez les gens les murmures. Est-ce qu'ils sont ensemble? Je suis pas sûr. Te raconter surtout ce que c'est qu'un duo, c'est un mec fabuleux, comique et si touchant, et une femme, un joyau qu'on admire tellement. C'est gagnant, gagnant, c'est carré, campan. Ouais, je suis fan et je pense que votre attaché de presse n'a pas peur. Il sait que dans 2 mois vous revenez ici pour les rêveurs. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Sur scène, Olaf, le 1er avril, au Folies Bergère.
Moi, il m'a donné envie de pleurer.
Bravo. Mmh.
Ouais.
C'est beau.
Bah, moi, il me fait chialer tous les matins.
Oui, pas pour les mêmes raisons.
Bah, je me demande quand ça va s'arrêter.
Vous jouez donc le rôle de Catherine et Isabelle Carré au théâtre. Vous êtes principale dans une étude de notaire. Hein, c'est
absolument.
Ça. Donc plutôt, on va dire quoi on a l'image de d'un personnage rigide.
Austère,
quand, quand on est, ouais, c'est ça. Oh. On vit dans un...
Oui. Oui, on ne se dit pas que c'est quelqu'un qui va faire un pas de côté. C'est peut-être pour ça qu'elle a choisi cet emploi, ce métier. Quelqu'un qui est un peu dans ses marques, quoi, qui est un peu...
coincé.
Ouais, je dirais pas rigide, mais coincé, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui est en couple,
qui est dans les roule, qui est dans les écrits, qui est dans les papiers, qui est dans les règles. Ouais. Et l'autre...
Dans le cadre.
Bernard Campan, vous êtes l'autre personnage. Vous êtes compositeur de musique, vous êtes l'artiste, vous êtes celui qui écoute la musique fort, qui chante, qui crée, qui compose en permanence des
musiques
de
vie. Mais pas vraiment artiste en même temps.
Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu le côté... Il compose des musiques, mais...
C'est pas un artiste, c'est ça.
Mais finalement, non, pas tant que ça. Hein, je trouve qu'il a un côté un petit peu lourd, finalement. Et la notaire, elle a des rêves d'écriture, d'ailleurs. Elle arrivera à écrire. Je pense que finalement, tu es plus artiste...
C'était la suite de ma phrase. C'est-à-dire que sur le papier, l'un est artiste, l'autre est rigide. Et finalement, le fond de vos personnages, de vos caractères, c'est exactement l'inverse.
En se rencontrant.
Voilà.
En fait, il y a une espèce de vase communicant.
Voilà.
C'est drôle, d'ailleurs, parce que quand j'y pense, il y avait ça aussi dans ce souvenir des belles choses. On a un truc de vase communicant, décidément.
Une histoire d'amour.
Hein. Ouais. Mon personnage se révèle un peu à sa rencontre.
Mais c'est
fait.
Elle qui va faire le premier pas. C'est elle qui va être intriguée par ce bonhomme à côté.
Ça se fait un peu...
Chaotiquement, au début, ça marche pas. Ouais, non, c'est
faut que je relise la pièce.
Non, c'est pas ça. C'est quand même la première qui va... sous prétexte de dire votre musique est trop forte, vous chantez faux.
Ah, c'est pas sous prétexte, je crois qu'elle est vraiment,
elle est vraiment énervée par lui. C'est, ouais, c'est elle le relance. Comme ça, les histoires d'amour, ça commence. Enfin, je sais pas.
Elle installe un dialogue par une engueulade.
C'est souvent un truc comme ça, non? Un espèce de rejet, peut-être une peur.
Ah oui.
Ou je sais pas, ça peut durer toute l'histoire d'amour.
Je vois que vous avez eu ma femme au téléphone. Mais rejet, peur, c'est
allô, Mélanie.
C'est comme ça qu'elle, c'est comme ça qu'elle me parlait, oui.
Et donc, la troisième plainte, elle se détend.
les deux sont en couple. Les deux ont une vie déjà construite.
Oui, et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas du tout des dragueurs, en fait. On parlait de qui le premier pas. Ouais. Ça leur arrive. Et c'est ça qui est extrêmement touchant, c'est que, bah, comme beaucoup de gens qui vont maintenant prendre des plats à emporter, ils ont l'habitude de manger dans le même parc, sur un banc, puis il se trouve que ce banc, bah, ils le retrouvent, voilà, et il y a une relation qui naît entre eux, mais qui leur échappe complètement, ils n'avaient pas
balance,
du tout...
Ils balancent un verre d'eau...
oui, ça commence là, mal, justement,
ah oui, commence mal,
et ça pourrait s'en terminer là, quoi.
Sur un blouson qui pourrait être abîmé, tous les blousons ne supportent pas l'eau.
Oui. Absolument, c'est le cas de celui-là,
voilà.
Donc ça commence très mal, mais
et puis c'est pas de l'eau.
Mais ils y reviennent parce qu'il y a quelque chose qui, quand même, il y a une électricité, quoi. Il y a quelque chose qui les attire. Vraiment, malgré eux. Moi, c'est ce malgré eux que je trouve très touchant dans la pièce. C'est que, voilà, ils n'ont pas l'habitude de ça. Du coup, ils sont complètement dépassés. Ils sont dans le déni. Enfin, il y a plein d'étapes comme ça qui met beaucoup de saveur à cette rencontre, quoi.
C'est pour ça que c'est ridicule de promettre l'amour à vie, parce que justement c'est le cas de ces deux personnages. Et ça c'est au-delà d'eux, c'est plus fort qu'eux.
En fait. Un message à faire passer.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais promis l'amour à vie, c'est pour ça.
Ouais, non, mais déjà le promettre pour le lendemain, c'est pas mal.
Bah, déjà pour la journée.
Et,
ouais.
tu fais ça tous les jours, ça peut durer longtemps.
Ouais.
En effet.
Déjà pour la matinée.
L'année, il est épuisé.
Mais c'est vrai qu'il y a une citation à la fin de la pièce de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stieg Dagerman, qui dit ça, qui dit qu'en fait, peu importe le temps du bonheur, c'est y a aucune corrélation entre, enfin, il faudrait pas en mettre, en tout cas, entre le moment de l'amour, le moment d'une
rencontre. Entre la force de l'amour et la durée, c'est ça ?
Ouais, ou quel que soit le moment de bonheur, il dit même une caresse.
Peu importe que ça dure une seconde ou mille ans.
Sur la joue qu'on donne à un enfant, ou à un bateau qu'on voit s'envoler, une belle journée, peu importe le temps qu'elle dure.
Mais alors, pardon, ce rendez-vous qu'il se donne régulièrement autour de ce banc public, dans le parc, avec des caractères qui passent autour, il y a une personne qui revient avec son landau, qui a perdu régulièrement une pièce d'un euro, évidemment, on comprend que c'est une manière, en tout cas, se sentir humilié.
Il est joli, ce personnage, c'est un peu un personnage à la Capra, quoi, milliardaire pour un jour, ce genre de personnage.
Dans
La vie est belle, exactement.
Ouais. Ouais.
Qui est là un peu pour observer cette relation.
Et puis,
c'est joué merveilleusement par Hélène Babu, j'en profite.
Il y a un qui joue deux rôles dans la pièce, qui joue également le rôle de votre épouse Bernard Campan, et puis il y a ce jeune couple d'amoureux qui fait peut-être rêver ces deux qui se demandent s'ils ont réussi ou raté leur histoire d'amour.
C'est ça qui est beau, c'est ce rapport d'âge aussi, parce que nous on est un peu en quête d'une seconde chance. Et un peu au moment de faire des bilans, ce qu'ils font d'ailleurs dans ton couple avec Hélène Babu, ils sont un peu dans ce truc de bilan, est-ce qu'on part à la campagne, enfin comment réinventer son couple et son histoire
d'amour.
Oui, parce
que tout n'est pas rose non plus, par exemple, dans votre couple à la maison, le mari est plutôt... reste d'ailleurs à la maison pour des problèmes de santé.
Stéphane, joué par Stanislas Tani, qui a effectivement une dépression. C'est un thème très actuel. On a beaucoup entendu parler de santé mentale et je reviendrai, j'en profite pour le dire, dans quelques temps, vous parler des rêveurs pour ça. Mais c'est vrai que.
Enfin,
oui,
vous venez pas parce qu'on vous invite, hein, c'est pas vous qui vous imposez. Hein.
Oui.
Parce que là, on vous dit.
Si, j'ai gravé mon
dit, dit comme ça, on dirait une menace. Et j'en reviendrai ici, monsieur.
Ouais, ou alors j'aurais appris la confiance, quoi. Et donc je reviendrai. Je vous donne la date.
Il faut que je vous donne, et l'heure.
C'est bon, ça. Notez.
Je disais que je faisais pas le premier. Pas, mais je m'invite quand même.
Ouais,
on sait que ça sera à 11h, mais on ne sait pas quel jour. Mais on attend.
Ah ouais. Et si c'est un week-end, faut qu'on se démerde. Hein.
Donc, oui, il a peur de sortir de chez lui.
Il a peur de sortir de chez lui. Elle est tout en soutien vis-à-vis de lui. Et on sent que ça pourrait durer, sauf qu'il y a cette rencontre, encore une fois, qui n'était pas prévue. Et en même temps, elle cite encore là, je dis une autre phrase de Paul Éluard qui dit « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ».
Et vous y croyez à ça ?
Peut-être, dans mon personnage y croit beaucoup.
Pas que dans les histoires d'amour, hein, je veux dire, est-ce que vous y croyez aussi pour les rencontres professionnelles, pour les projets qui arrivent, les lectures d'un livre ?
Moi je crois quand même beaucoup à la chance. Je crois quand même beaucoup à la chance et on ne peut que
rien
y croire.
Rien n'est écrit, quoi. On n'est pas dans le mektoub, on n'est pas dans, dans la destinée.
C'est pas incompatible.
Vaste.
Ouais, c'est peut-être pas incompatible à être à l'écoute. Bernard,
vous pensez
quoi?
Je propose qu'on réfléchisse 20 minutes en silence.
Oui, voilà, c'est ça. Une petite méditation.
Allez, Bernard.
On se rend compte.
Ce qui est beau, c'est que c'est une pièce qui fait réfléchir à tout ça, effectivement.
Ben oui, moi je pense que non, mais tout est écrit, c'est piège parce que ça n'a pas de sens véritablement. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Comme mon pote Einstein. Non, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout arrive parce que tout est en corrélation avec tout. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard pour moi.
C'est au théâtre à partir du 18 septembre. Ça s'appelle Un pas de côté, signé Anne Diafferi. C'est une création.
Oui.
Cette pièce n'ayant donc jamais été jouée avec Kelly Gauvry, Pierre-Antoine Suarez qui vous accompagne également, vous quatre sur scène, Isabelle Campan et Bernard
Isabelle Campan.
Carré. J'aime bien ça.
Avec Stanislas Staniche. Et
la dernière, elle marchait bien.
La fin de la pièce va vous surprendre.
Attends, on n'y est pas encore.
Non, mais c'est pas ce que je dis pas, mais...
Voici Lisa Delmoitier. Vous n'auriez pas écrit une comédie romantique comme ça, vous ?
Non, ça me déprime parce que je me rends compte que la saison des bancs publics touche à sa fin.
Oui.
L'automne arrive, spoiler alert, l'hiver aussi. Et qui dit hiver dit chacun chez soi, sur nos petits bancs privés. Comment on rencontre des inconnus en hiver ? Sérieux, passé octobre, mon seul espoir de rencontrer un inconnu, c'est de me faire cambrioler. Bah, maintenant que vous êtes là, on peut peut-être papoter. Visiblement, on a les mêmes goûts en décoration. Donc, il faudra rendre le tableau. Mais vos deux personnages, Isabelle et Bernard, ils se rencontrent quand ? Au printemps ? La saison où tout est prétexte à la rencontre d'autrui, les balades dans les parcs, les déjeuners sur les bancs publics, les allergies, le nombre de couples formés autour d'un « excusez-moi, vous avez un bouchoir ?» Ça commence comme ça, moi j'adore rencontrer les inconnus, surtout vous Bernard. Hey. C'est pour ça que c'est mérité, c'est pour ça que j'adore ce métier. Hein. Chaque jour on reçoit des invités différents, enfin bon, sauf aujourd'hui. Et on s'adresse à des auditeurs dont on ne sait rien de nos auditeurs, ce sont les inconnus. Enfin, sauf un, j'ai un auditeur qui, chaque fois qu'il monte à Paris, me ramène du fromage. Vous le croyez ça ? J'ai un dealer de chabichou. Oh, wow. Je le sais, d'ailleurs, Fred, gros, c'est de la bonne. Hein. Moi, je suis accro aux premières rencontres, j'adore échanger avec des inconnus parce qu'il n'y a pas d'enjeu.
Ouais.
On le voit d'ailleurs, vos deux personnages se confient assez vite parce qu'il y a dans le banc public un côté confessionnal ou cabinet de psy, si vous avez troqué Dieu pour le MDR. C'est une thérapie où tu secoues les yeux dans tous les sens. Et je peux imaginer que ça marche. Parce que moi, quand je veux résoudre un trauma, je me fous en boule dans la machine à laver. Voilà. Je vous jure, ça se coûte tellement, ça marche. C'est à la phase de pré-rinçage que j'ai compris que ma peur des araignées venait du fait qu'elles sont absolument dégueulasses. Moi, je les collectionne, les belles petites rencontres comme ça avec des inconnus. C'est pour ça que j'adore les hôtels. Et il m'arrive toujours des aventures dans les hôtels.
Ah bon ?
Je sais pas pourquoi. D'après la sécurité, déambuler la nuit dans les couloirs en robe de chambre et en parlant seul n'aide pas. Mais bon. J'adore les transports en commun aussi. Tu rencontres qui seul derrière le volant de ta voiture ? Sérieux. C'est juste toi, l'air conditionné et ton racisme réprimé.
C'est vrai.
C'est quand même fou la voiture. C'est une machine à devenir facho, quoi.
Oui, oui.
Tu peux mettre Gandhi dans un Kangoo. Au deuxième cycliste qui lui coupe la route, il le ramène dans ton pays, connard. Oula. Alors que le métro, le train, oh là là, le train. Je rencontre toujours des gens dans le train. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, figurez-vous, dans l'Eurostar, j'ai rencontré un garçon.
Alors ?
Je vous arrête tout de suite, rien de sexuel, il était hollandais.
Ah,
il est toujours, d'ailleurs, c'est incurable. Mais c'est quand il s'est assis à côté de moi avec un grand sourire et en me serrant la main que je me suis dit... il n'est pas français. On s'est alors mis à parler de nos étés respectifs de façon hyper honnête, en fait. Parce qu'on s'est dit, on ne se reverra jamais. Donc on s'est confié, on s'est rendu compte qu'ils avaient été, pour tous les deux, assez mouvementés, assez éprouvants par moments. On s'est parlé de nos choix de vie, on s'est parlé de nos métiers, on s'est parlé de nos relations. Et on s'est dit qu'on ne savait pas où on allait. Puis le contrôleur a dit Bruxelles. Bon, il n'avait pas tort, mais il était un peu premier degré. Alors voilà, on a échangé nos numéros. Mais en réalité, il y a peu de chances que je le revoie. Mais ce n'est pas ça qui compte.
Ce qui compte, c'est que le temps du trajet, c'est moi qui avais la place à la fenêtre. Bon. Non. L'important, c'est la belle rencontre, l'échange, à quel point, comme dans la pièce, ben, le regard d'un inconnu peut questionner profondément nos vies. Donc vive les inconnus, vive nos auditeurs, vive Fred, mon dealer de lactose, et moi, Hollandais, en crise existentielle. Puis cet hiver, pitié, ne me laissez pas seul, venez me cambrioler.
Yeah ! Oh non ! Je ne souhaite pas. Lisa Delmoitier, justement, est-ce qu'on ne dit pas plus de choses à quelqu'un que l'on ne connaît pas en se disant on va pas le revoir et on n'a pas le jugement.
On voit bien dans les taxis.
Ouais, c'est vrai.
Ou un très bon ami ou un très bon ami ou un inconnu.
Où il y aura pas de jugement. C'est ça, voilà. En fait, c'est l'absence de jugement. Et est-ce que cette histoire, cette comédie romantique, Un pas de côté, pourrait être aussi la naissance d'une amitié et pas forcément d'une histoire d'amour?
Mais ils essayent en tout cas. Mais ils sont sur le fil.
C'est ça, ils s'accrochent.
Est-ce qu'on va vers une amitié? Est-ce que voilà, ayant chacun d'ailleurs, là, bon, on en a parlé, mais leur femme et leur mari, moi j'aime ma femme, elle aime son mari. Donc c'est vraiment très difficile d'aller vers une histoire d'amour. Alors est-ce que ça peut être une histoire d'amitié? C'est un peu ça aussi.
Oui, c'est ça. On est sur le fil tout le long, avec aussi une progression dans le tutoiement, progression dans la bise, progression dans la nourriture. On voit à quel point cette rencontre, ce hasard devient un sandwich.
La nourriture, est-ce que c'est pas l'expression d'un langage amoureux aussi, d'offrir quelque chose à l'autre? Il y a le contact physique aussi, ils se touchent.
Ils se passent leurs cigarettes. Mais c'est vrai que
ça se fait, ça. C'est très intime, non?
Oui, justement. Ouais.
C'est la bouche, la salive et.
C'est charnel.
Je sais pas.
Bah oui.
Je fume pas, donc je sais pas.
Pas dès le départ, justement. D'accord. À un moment,
Mes questions, c'est un signe de drague quand un fumeur ou une. On dit une fumeuse?
Je sais pas. Ouais.
Il y a une fumerole.
J'ai un doute de fumer déjà.
Fumeuse?
Oui,
un fumeur. On dit un fumeur. Il n'y a que des hommes.
Ça et ça ne fume pas.
Bon, alors, une fumeuse. Oui, comme ça.
Qu'est-ce que t'as aujourd'hui?
Non, mais je sais pas. Le mot n'est pas joli. Donc, quand une personne fume et qu'elle passe sa cigarette à l'autre qui la tête aussi, c'est super bizarre, non?
C'est une proximité.
Faut se connaître un peu quand même, comme partager son verre.
T'es pas obligé de bouffer ton égo.
Oh, d'hygiène.
Oh, l'hygiène, depuis quand tu t'en préoccupes? Vous
feriez ça, vous, Isabelle?
J'aime beaucoup cette conversation.
Mais non, mais j'ai pas pensé, c'est vrai. Non, mais je pense à ça, c'est vrai que...
Mais justement, ça montre...
Vous amènerait à parler.
J'ai pas le code, vous le faites dans la pièce, mais j'avais pas le code du pas franchi avec on se passe à cigarette.
Mais le contact entre eux est très rare, très progressif. Bon, là, je
le contact physique, vous voulez dire?
Oui, physique. Ouais. Mais la cigarette reste un contact physique, puisque la salive de l'un va...
C'est hyper intime.
Et oui, c'est ça. Donc, j'ai pas pensé à ça. Ouais.
Voilà, mais ça arrive à un moment où... Non, tout ça, c'est très ténu.
Enfin, il y a d'autres climax, je vous rassure.
Comme lesquels? Non, mais lesquels, justement?
La mayonnaise.
Rien que ça donne vraiment envie d'aller voir la pièce.
Il y a la mayonnaise. Ça, c'est le climax, c'est la mayonnaise. C'est la scène de la mayonnaise.
Oui, il y a un moment où
Là, il va falloir expliquer vite. Hein.
C'est ça.
Ou pas, justement.
En même temps, attention, faisons la montée.
Climax.
Il y a un moment, ils s'échangent de la mayonnaise. Voilà.
On peut parler de la mise en scène parce qu'on voyage. On n'est pas que dans le parc. C'est pas uniquement le banc qui est la scène.
Il y a les appartements des uns et des autres. Ouais. Donc on les voit aussi revenir un peu avec les images, enfin les pensées amoureuses qui continuent à les obséder, même quand ils rentrent chez eux. Donc ça, c'est des moments assez touchants aussi. Et on a essayé, oui, dans la mise en scène, enfin, Al Jaferi a essayé de faire que les choses se tuilent de plus en plus, enfin, qu'on ait quasiment pas même pas du tout de noir entre les scènes, qu'on soit complètement, ça circule, et on passe d'une scène à l'autre, et voilà, et c'est assez...
Est-ce que c'est aussi l'explication d'un coup de foudre, la mise en scène dans une comédie romantique d'un coup de foudre? D'abord, est-ce que vous croyez au coup de foudre déjà hors des fictions, dans la vie? C'était le cas pour vous, Bernard, vous l'avez dit tout à l'heure. Isabelle, oui. J'ai l'impression.
Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il me faut du temps, qu'il me faut du temps et oui, apprendre à connaître l'autre, avoir une complicité qui me rassure, en fait. Qui
plus
me rassure
une et... construction qu'un choc ou une évidence ponctuelle comme ça.
Oui, je me méfierais de mes élans. Je me suis beaucoup trompée.
Là, eux vivent un coup de foudre. Donc...
Bah, pas vraiment, hein, c'est un coup de foudre en retard, non, décalé.
Oui, un peu décalé à rebours, mais c'est vraiment parce qu'il y a une complicité qui leur échappe, encore une fois. Et puis ce temps où ils apprennent à se connaître, où ils se découvrent. Et
ils aiment peut-être aussi ce côté un peu piquant de la nouveauté, de parler,
de l'inconnu. En fait, de parler énormément, ils arrivent à se connaître en parlant, en échangeant sur, pendant cette heure de déjeuner. J'imagine que beaucoup d'auditeurs ont vécu ça, quoi. Tu te retrouves tous les jours à déjeuner et puis petit à petit, il y a quelque chose en plus qui naît. Et
sans pour autant échanger les numéros de téléphone, ça veut dire que vraiment la rencontre, elle est conditionnée à ce lieu.
Oui, je ne cherche pas du tout à...
Voilà. Ça, c'est joli. C'est-à-dire
à poursuivre
là,
les choses.
Tu es là, on se rencontre, mais sinon, on ne s'appelle pas.
Non, mais la vraie question, ce fameux pas de côté, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas simplement sourire, s'entendre avec quelqu'un, se voir, se revoir sans forcément justement aller plus loin, le plus loin étant forcément sexuel, charnel. Il y a une phrase qui est proposée par l'assistant son qui dit ça va, il y a un hôtel à côté, vas-y quoi, c'est bon. C'est-à-dire que, et là, ce qui viendrait peut-être gâcher tout.
Exactement. Mais ça pose la question, ça me fait penser à la nouvelle rêvée de Schnitzler, qui avait été repris à Eyes Wide Shut. À quel moment, en fait, on trompe l'autre? Est-ce que c'est dans les rêves? Est-ce que c'est en y pensant tout le temps? Est-ce que là, déjà, il n'y a pas...
Mais là, c'est trop tard, là. Là, c'est trop tard.
Bah, à ce moment-là, au premier sourire, vous trompez.
Non.
Si. Où est la limite?
À la première.
C'est intéressant.
Bah, si c'est la pensée. Non, mais si c'est la pensée, si c'est...
Non, mais sourire à quelqu'un comme ça, quand tu ne le connais pas dans la rue, tu ne trompes pas. Mais s'attendre à ce rendez-vous en espérant que l'autre vienne manger sur le même banc que toi...
En y pensant chaque instant, chaque jour.
Il y a un souci.
Il le dit à un moment, c'est très beau, il fait une déclaration d'amour en disant ça, qu'il y pense tout le temps, que finalement, même quand il essaie de ne pas penser à elle, c'est encore penser à elle. Et cette obsession, voilà, est-ce que ce n'est pas aussi... là qu'il est un grand pas de côté.
On va pas révéler la fin, mais est-ce qu'il y a une morale, parce que c'est pas une pièce pour donner des leçons.
Non, pas du tout. Non.
Mais est-ce qu'il y a un enseignement à tirer, à votre avis, à la fin?
C'est qu'on ne passe pas sa cigarette aux gens. Déjà,
qu'on ne connaît pas. Déjà.
C'est un peu l'éloge, le pas de côté, c'est quoi? C'est être déstabilisé, accepter d'être déstabilisé. On peut se dire qu'on ne se perdra pas si on va toujours tout droit, bon, certes, mais accepter cette déstabilisation, de ne pas savoir, de partir un peu dans cet ailleurs, c'est fragilisant, mais on en ressort, comme je le disais tout à l'heure, mon personnage va finir par se révéler, par écrire, par s'inventer une autre vie.
Surtout de ne pas raconter la fin, on peut simplement dire que l'importance dans l'amour, c'est quand les deux se racontent la même histoire. C'est ça aussi qui, personnellement, j'ai retenu de la pièce. Parce que chacun va avoir, entre guillemets, deux histoires en parallèle. Celle qu'il construit avec son couple stable, l'histoire qu'il est en train de rêver. Et puis après, il y a la réalité qui va venir déterminer finalement de quel côté la balance va pencher.
Exactement.
Pas d'accord, Bernard. Vous me
faites non, je suis pas sûr, non.
Mais je
pense que c'est.
Est-ce qu'il se raconte
c'est une histoire d'amour? Il y a eu histoire d'amour.
Oui, mais est-ce qu'ils se racontent la même histoire tous les deux?
Non, pas tout à fait. Ils sont pas toujours en phase. Voilà, ils cherchent.
C'est pas le même point de vue.
Mais ce qui est beau, c'est que quoi qu'il en soit, il y aura eu histoire d'amour. C'est ça qui est très beau. Alors, est-ce que pas totalement platonique, mais quand même, il y aura eu une.
On en parle jusqu'à midi et demi. C'est au Théâtre de la Renaissance à partir du 18 septembre, l'événement théâtral de la rentrée. Isabelle Carré, Bernard Campan au théâtre pour Un pas de côté. Voici Julien. Sorti.
Et hop, ça démarre. La semaine dernière, j'ai pris un train. Comme vous le savez, j'ai une passion pour les TGV. Les TGV, c'est assez pratique. Et ce qui était très drôle dans ce TGV, pardon, je m'arrête. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je voulais faire. J'ai essayé de faire un début à la Tanguy Pastureau. La recette est assez simple. Au début de chronique, ni bonjour, ni merde. Et on n'en a rien à foutre des salamandres. Il trace notre Tanguy national, notre vedette, notre Mbappé des ondes. Ça rigole. Hop, rien à foutre. Bas les couilles, c'est la même chose. Franchement, Tanguy, c'est mon idéal. Passion Tanguy. Les auditeurs et auditrices ne nous voient pas dans le studio et donc ne voient pas qu'il n'est pas là avec nous autour de la table. Mais soyez rassurés, dans quelques minutes, il sera bien dans la bande originale. C'est aussi ça ce que confère le statut de vedette. Venir quand c'est son moment. Eh, mais oh, c'est la fête à Tanguy ou quoi? Allez, je commence la semaine dernière pour le coup. Bah, c'est vrai, j'étais dans un TGV quand tout à coup, entendu dans le train, quelqu'un dire « Il s'est mis en maladie !» Et une personne de lui répondre « Jusqu'en septembre !» Oh, que ça m'a énervé. Déjà, c'est pas français comme expression « Il s'est mis en maladie !» Et puis je voyais déjà ces gens critiquer leurs collègues être en congé en maladie, alors qu'on oublie souvent que quand les gens obtiennent un arrêt de travail, c'est pas eux qui l'ont rédigé. C'est un médecin qui les a reçus, a relevé une incapacité de travail, et puis voilà. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne la teneur de mon analyse, alors je vous propose de la poursuivre. En disant « Il s'est mis en maladie », ça éclipse toute autorité extérieure médicale en l'occurrence, et ce, pardon, mais j'ai l'impression d'être Clément Viktorovitch, j'adore, vous voyez qui c'est. C'est un analyse du langage, il décrypte tout. Lorsque Bayrou a dit 14h02, alors oui, le déficit. Je misais des blagues sur l'imitation, mais je vais plutôt reprendre mon analyse. C'était sous-entendu. Les premiers rires, fous rires qui fusent. Eh oh, Isabelle, Bernard, on est jaloux, quoi. Il est bon, le public, ou il est pas bon, là? Donc, lorsque c'était sous-entendu, il s'est mis en maladie. C'est, il n'avait pas envie de venir au travail. Arrête complaisance, comprenez, il n'a rien. Alors que le gars qui s'est mis en maladie, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu long, ce passage. Et c'est fou parce que ça fait,
confirme.
Ça fait à peine, et c'est confirmé par le boss, ça fait à peine une minute peut-être que je suis à l'antenne, il m'en reste deux et je dois dégager. Et c'est dans ces cas-là que je me dis que la temporalité est somme toute assez relative. Je conclue, en plus moi le gars je ne le connaissais même pas, mais le simple fait de savoir que deux de ses collègues de travail qui font du lachonara à la médisance, le pire, de savoir que deux de ses collègues le critiquent, eh ben, ça m'a donné envie de le défendre et de l'aimer d'un amour inconditionnel. Amore pasquale baulio babuja badrea. Au moment où j'entendais ces deux médisants qui iront en enfer, le chétan, je reçois un mail de France Travail qui pense à moi, qui pense à nous autour de cette table, dans un mail du 28 août dernier à 13h22. C'est une proposition de figuration. Tenez-vous bien pour, je cite, un long métrage avec un réalisateur de réputation internationale. Pas plus d'indications sur le nom. Dis donc, a-t-il les mains propres, ce réalisateur? C'est un projet secret. Est-ce que France Travail est déconnecté à ce point du réel? Déjà, est-ce qu'il pense, premier degré, lorsqu'on exerce le métier de comédien, que figurant, c'est génial? Moi, je suis très content qu'il y ait des annonces pour les figurants. J'aimerais juste qu'il y en ait tout autant pour les rôles. Mais surtout, est-ce qu'ils se sont dit, à la table de rayon, il faut savoir appâter le chaland? Si on leur dit que ce réalisateur est de réputation internationale, alors de façon inéluctable, c'est certain, ils vont mordre. Car ses allocataires ne sont qu'avides d'une chose, à savoir la reconnaissance mondiale. Leur égo est démesuré, surtout Santini le frisé, c'est une merde. Pardon, on n'a pas du tout d'égo démesuré, on veut juste un travail à la hauteur de notre talent. La figuration, pour les petites gens, et les rôles, pour ceux qui ont été élus.
Ça va pas.
Pour ceux qui... Ça va très bien, merci. Et les rôles, pour ceux qui ont été élus, pour ceux qui ont été choisis. En l'occurrence, pour moi, car je suis l'élu. À double titre, me semble-t-il, de surcroît, Bezrat Hachem. Et puisqu'on parle de cinéma, j'ai eu la chance, au cours de cet été, de pouvoir tourner dans la série de Paul Mirabel. Isabelle Bernard, détecteur de jalousie, tu s'enflammes beaucoup pour des gens qui prennent tous les rôles. J'ai eu la chance de pouvoir, je suis désolé, mais vraiment un traitement sous lithium mal conféré, je le souhaite à personne, c'est une victoire sur la Villette. Et puis, j'ai eu la chance au cours de cet été de pouvoir tourner dans la série de Paul Mirabel, et j'ai à ce titre-là une petite anecdote exceptionnelle, je vous la livre. Sur le tournage, je t'aime, sur le tournage, à un moment, je lui demande son salaire journalier et il me répond, je ne vais pas te le donner, mais si toi tu veux bien me donner le tien, je t'écouterai avec plaisir. J'ai trouvé que le deal était assez équitable, et du coup je lui dis le mien. Tout de suite après, il me regarde et il me lâche. Avant, nous étions copains. Désormais, Julien, je te considère comme un frère. De savoir que tu as accepté pour cette somme me touche énormément. À titre personnel, ce que tu gagnes, je l'ai touché ce matin à 9h30. 16h, j'ai oublié de préciser qu'à ce moment-là de la conversation, il était 16h. Ça a son importance. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, Paul Mirabel, c'est pour ce sens de la punchline. Me suis-je fait avoir dans les négos? Je ne pense pas. Vais-je changer d'agent? Peut-être. Comme quoi, finalement, la figuration. Allez, à la semaine prochaine.
Ouais. Merci. Wow. voix. Il m'a épuisé.
Voilà.
Moi-même, je suis fatigué.
Alain Delon a appelé les figurants les acteurs de complément.
Voilà. Parce que sans eux, tu ferais quoi? Et puis, un début à tout.
Sans les femmes, sans les petites voix.
Sans ça. Tu ferais quoi sans ça?
C'est le portrait d'un salopard ou quoi?
Rentrée fracassante, quand même.
Il a eu un worst of. Il a mis tout ce qu'il ne fallait pas faire en une journée.
Si vous avez
la haine de Julien Santini, allez le voir.
Absolument. À Wingles, le 26 septembre, à partir du 3 octobre, il pose ses valises, comme il dit, au théâtre de la Gaîté Montparnasse.
Et le 13 septembre à Calvi.
Non. J'ai pas envie d'en parler. Le 13 à Calvi.
Très bien.
Merci.
Le pas de côté, un pas de côté au théâtre de la Renaissance à partir du 18 septembre.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon.
On parle souvent des bandes originales de films, celles de théâtre sont importantes aussi. Dans une comédie romantique, il y a toujours la chanson. Est-ce que c'est le cas dans la vôtre aussi? Françoise Hardy fait partie de la BO. Il y a également ce titre de Johan Johansson, Innocence. La musique aide à jouer aussi, mettre dans un état.
Il faut trouver la couleur.
Parce qu'en plus, il est musicien de musique de film, donc on entend en fait sa musique de film.
On est dans sa tête.
On est dans sa tête à lui.
Ceci dit, il a les écouteurs très forts.
Oui, aussi, mais il me fait partager à un moment donné ses créations, quoi.
Ouais.
Donc, on est embarqué, en fait, c'est un peu une pièce... cinématographique. On est un peu dans un film aussi. Il y a des gros plans, beaucoup, dans la mise en scène, parce qu'on est sur ce banc en premier plan. Il y a cette musique très cinématographique. Johan Johansson, il est décédé maintenant, mais c'est un grand musicien de séries.
Oui, puis Anja Ferry, elle vient du cinéma aussi.
Elle vient du cinéma, j'avais travaillé avec elle.
Elle est très attachée à des choses très réalistes.
Sur Ange et Gabriel, avec Bruel.
D'accord.
Et puis un film aussi qui s'appelait... j'ai un trou. Au début, c'était Trois Sœurs.
Joli titre.
Avec Marc Keller. La vie à l'envers, voilà, ça y est. La vie à l'envers avec Marc Keller, Barbara Schulz et Pascal Arbillot.
Très bien. La musique, on va en parler, justement, celle que vous écoutez. On va également parler des coups de foot, des rencontres qui peuvent changer une vie, avec Cécilia Como, qui sera notre invitée dans quelques instants. Mais d'abord, commençons en 1986. Isabelle Carré, vous écoutiez... C'était quand vous étiez mise à la danse africaine?
Non, pas encore. J'allais y venir.
Johnny Clegg.
Vous avez 15 ans, Isabelle. Vous quittez la maison familiale, le domicile familial, pour aller travailler, habiter chez une tante aussi, je crois.
Oui, ça n'a pas duré très longtemps. Non, ouais. Sinon, c'est vrai que j'habitais seule un peu tôt.
Ouais.
J'étais un peu.
Ça ressemble à quoi vivre seule à 15 ans en termes de gestion?
Il y a beaucoup de cafards dans l'évier.
Mais c'est vrai, ça veut dire qu'il faut savoir se faire à manger, se discipliner pour laver son linge, pas laisser traîner les. Enfin...
Se protéger aussi.
Oui. On ferme bien à double tour, c'est sûr, on est un peu parano.
Jeune fille mineure, seule dans un appartement.
Je faisais des photos. À des journaux dont vous devez vous souvenir, des photos de mode pour Hockey Podium, Jeanne et Jolie.
Mais évidemment.
Mais oui.
Évidemment.
Ce qui vous permet de payer.
Ce qui me permettait de payer mes habits, mes fournitures scolaires, mes tickets de métro, pas mon loyer encore. Je payais pas mon loyer, mais tout le reste, oui.
Ouais. Et très très rapidement, vous vous inscrivez au cours Florent?
Oui. Parce que je voulais être danseuse, mais j'étais nulle. Donc ça, c'était mon premier chagrin d'amour, puisqu'on parlait de l'histoire d'amour ratée.
Qui vous a dit être nulle en danse?
Ah ben, je m'en rendais bien compte. Je m'en rendais bien compte.
Non, parce que quand on chante faux sur scène, on se rend pas compte forcément quand on chante faux.
Quand vous avez le prof qui vous dit tout le temps d'aller au dernier rang, que vos bras ressemblent à des ailes de poulet, que vous n'avez aucune grâce, que vous feriez
violent,
bien d'arrêter...
On t'a aidé.
Mandoneo.
À un moment donné.
Donc, je me suis inscrite dans un cours de théâtre en me consolant, me disant que je n'en ferais sans doute pas mon métier, puisque j'avais eu cet échec avec la danse, mais qu'au moins j'aurais le plaisir d'être sur scène.
Et vous rencontrez une prof géniale.
Je suis bien heureuse d'avoir fait ce pas de côté.
Ouais, ouais. Et vous rencontrez une prof super. Valérie Nègre.
Oui, Valérie Nègre qui m'a encouragée, qui m'a tout de suite dit, bon alors il y a beaucoup d'émotions qu'il va falloir la canaliser. Nous y sommes plus ou moins parvenus, on va dire.
Mais c'est plutôt joyeux de se dire qu'il y a beaucoup d'émotions, non? C'est un bagage, c'est un...
Mais ce qui est joyeux, c'est que oui, au théâtre, effectivement, là j'avais trouvé une place pour la mettre, cette émotion, sûr. Mais dans la vie, elle est souvent embarrassante. Et
encore aujourd'hui,
gênante, moment de gênance, ouais. Dirait ma fille.
Encore aujourd'hui, elle est embarrassante, cette émotion.
Ah, type,
trop plein,
ouais. Des fois. Oui, ben oui, c'est vrai qu'on est. C'est dommage d'ailleurs. Et on parlait des émotifs anonymes tout à l'heure de ce film de Jean-Pierre Améris. Je pense que s'il a eu autant de succès, c'est qu'il disait ça en substance, c'est que finalement peut-être que dans cette société où on veut toujours tout contrôler et avoir des coachs pour tout, être dans cette espèce d'assurance, peut-être que notre charme, il vient au contraire de ses fragilités, de tout ce qui tremble, en fait, ne le mettons pas trop vite de côté, ne le mettons pas sous le tapis.
86-87, Bernard Campan, vous écoutiez. Que se passait-il dans la vie, Laïla?
Elle habitait au-dessus de chez moi, Élie Médéros.
Mais non.
Si,
c'est pour ça. Avec Jacques Noe.
Avec Jacques Noe à l'époque, ouais. J'étais même allé la voir, je sais plus pourquoi, pour lui dire oui, je joue une pièce quelque part, si vous voulez venir vous voir. Ouais.
Elle était venue?
Non.
Vous formez à cette époque-là les Inconnus.
Mmh.
Au départ, vous étiez 5. Vous appeliez les 5.
Ouais.
C'est des premiers noms.
Avec Smaïn et Seymour, ouais.
Ouais. Et puis, on connaît l'histoire, on connaît ensuite ce que deviennent les Inconnus à travers le temps. On parlait d'émotion tout à l'heure, on parlait d'être sur scène aussi pour essayer d'en faire quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas à vous aussi, Bernard?
L'émotion, en fait, moi, je me rendais pas compte que j'avais autant d'émotions en moi, en fait.
Ouais.
Et c'est avec ce souvenir des belles choses que je l'ai découvert, quoi. C'est ce qui m'a permis de...
Ça a été tardif?
Oui, assez tardif. Je voyais bien que j'avais des émotions, que c'était difficile pour moi de les contenir, mais je voyais pas en quoi ça pouvait me servir sur les planches, parce que je me projetais pas moi au cinéma vraiment à cette époque-là.
Ouais. Ouais. Et au théâtre, c'est quoi? C'est vraiment une matière, c'est du pain béni ou pas?
Bah, d'une certaine manière, c'est un cadeau, oui, comme, d'avoir ça à partir du moment où c'est canalisé, où c'est travaillé.
C'est ce qu'on s'est dit à la dernière répétition, quand ça a bien débordé.
Alors ça ressemble à quoi quand ça déborde?
Justement, on avait des montées d'émotions. Ce qu'il faut, c'est quand même pouvoir contrôler quand l'émotion monte trop fort et qu'on n'arrive pas à parler derrière. Là, c'est un peu difficile. Ouais. Mais si l'émotion est là, formidable. Et puis, il faut quand même arriver à dire le texte.
C'est pour ça que vous formez...
Il y a quand même des virages à 90 degrés à prendre dans la pièce.
Oui. Oui, parce qu'on passe de l'humour à l'émotion.
C'est pour ça que vous formez un beau duo, vous pensez? Que vous êtes tous les deux...
Bah non, maintenant on se connaît bien, très bien.
Bien.
C'est de plus en plus facile de travailler ensemble. Mmh. Parce que là, la confiance est de plus en plus là. Et pourtant, quand même, dans les scènes de rapprochement, d'amour, il y a une petite gêne, forcément.
Bah, oui.
Mais heureusement aussi, ça fait partie des émotions, cette gêne.
En 2002, justement, vous écoutiez Isabelle Carré. York, et on en arrive à se souvenir des belles choses.
Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman, où vous incarnez cette jeune femme réservée et où vous faites la connaissance, je ne sais pas si c'est sur un banc, mais d'un autre patient, et c'est vous, Bernard Campan. Je sais que vous préparez, on le dit toujours, hein, vous préparez énormément les rôles, vous documentez énormément. Qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir, ce rôle-là?
Ah ben, déjà, alors, par rapport à Björk et cette chanson, je venais de voir Dancer in the Dark, juste avant le tournage. Et c'est vrai que comme on enchaînait énormément de scènes d'émotion, pour le coup, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir grimper ces marches. Et à chaque fois, j'écoutais cette chanson et paf, je repensais à la performance extraordinaire de Björk dans ce film. Et ça m'aidait beaucoup. Ensuite, bah oui, j'ai rencontré un grand professeur à la Timone à Marseille pour ce rôle, qui grand spécialiste d'Alzheimer, qui m'a beaucoup appris. Par exemple, des choses comme le fait que, oui, quand il y a une aphasie du langage, quand vous êtes face à un malade d'Alzheimer, vous pouvez toujours communiquer autrement. Il y a toujours moyen, il y a toujours une porte d'entrée, même si on a l'impression qu'on n'est plus en face de la personne qu'on a connue, qu'on n'a plus, qu'on peut plus l'atteindre. En réalité, il y a plein de façons. Par exemple, la musique. Exactement, la musique, lui mettre une musique qu'il a aimée, le toucher, le fait de faire un peu semblant aussi de le comprendre. Mm-hmm. Ça, ça détend aussi
beaucoup. Jouer le jeu. Oui, de pas le contrarier s'il vous dit...
Oui, si c'est à côté, c'est pas grave. On peut comprendre par le regard.
Si vous répétez quatre fois que vous appelez Isabelle, oui, je m'appelle Isabelle, faut pas dire, mais je te l'ai déjà dit.
Ouais, c'est oui, ça, c'est être, ça. Avoir une espèce de, ouais. de compréhension que ce qu'il dit, c'est pas le plus important. Il y a quelque chose au-delà des mots qui peut se...
Comme quand on joue avec un enfant et qu'il tient des propos parfois un peu délirants. Et...
Ou même, je vais vous dire, hein, comme dans la pièce entre Bernard et moi oui, en ce moment, ouais. il y a plein de sous-textes.
Alors justement, il y a un artiste qui se bat aussi et qui fait tout pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer et contre l'amnésie. C'est Alain Souchon que vous écoutiez à ce moment-là, Bernard Campan.
La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens. Mais moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis
pourquoi ce titre, Bernard ?
Parce que je l'aime beaucoup.
C'est gentil. Hein, tu vois, c'est ça va m'aider.
Non, mais quand c'est vrai, quand vous nous demandez là, les périodes, les musiques, bah, on se replonge et puis.
On demande la bande originale de votre vie. C'est le
principe. Donc, Souchon, je joue un petit peu de guitare, pas aussi bien que Monsieur Olaf, mais j'aime bien. J'aimais bien jouer ce morceau à l'époque.
Ouais. Et à cette époque-là, on n'aime pas du tout Adrien Brody qui décroche le César du meilleur acteur alors qu'on le voulait pour vous, Bernard, parce que avec Isabelle, ça aurait fait un duo gagnant. Ah, exceptionnel puisque Isabelle le décroche.
Je me suis dit, j'ai partagé le mien en deux. Hein. J'ai dit que je le sais et que.
Et vous l'avez fait ?
On avait une partie.
Mytho.
J'ai pas trouvé une scie suffisamment.
Et une garde partagée.
Que des paroles, que des mots.
Ouais. Une garde partagée du truc.
C'est vrai.
Faut demander à Julien, il a une scie à métaux.
Ah oui, c'est ça. Film qui vous révèle au grand public, vous dites que Zabou a vu en vous aussi. Justement, tous ces sentiments, a vu quelque chose chez vous avant tout le monde.
Oui, bien sûr. Elle m'avait vu dans un festival, comme ça, enfin, en train d'attendre. Et puis elle cherchait le rôle masculin. Elle avait déjà pensé à Isabelle pour le rôle féminin. Et puis j'ai dit, tiens, mais oui, mais lui, il peut. Ça, je suis sûr que ça peut le faire. Donc quand elle m'a dit, je suis sûr que tu peux le faire. J'y suis allé, mais sinon, moi, j'avais des gros doutes.
Un pas de côté, c'est au théâtre de la Renaissance à partir du 18 septembre. Cécilia Como est en ligne, puisque nous avions absolument tenu à échanger avec elle sur ses histoires d'amour. Bonjour, Cécilia.
Bonjour
Nagui,
bonjour Leïla.
Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes sexologue, clinicienne, psychanalyste et thérapeute de couple. On a parlé tout à l'heure des rencontres et de cette frontière entre les rencontres amicales ou amoureuses. Comment déterminer cette frontière ?
Ah ça c'est compliqué effectivement, hein. Il existe sur l'entre-deux quand même, il existe des rencontres qui ne s'installent pas vraiment dans le registre de l'amitié où la sexualité est absente, ni dans celui de l'amour où l'engagement affectif est assez central. Ce sont ces rencontres où l'érotisme en fait circule sans forcément se concrétiser. On a plutôt ici Eros... synonyme de frisson, d'intensité. Moi, je les appellerais facilement des rencontres désirantes. C'est des rencontres où il y a une érotisation du lien. Alors, parfois lentement, parfois plus vite. Hein. Ça dépend effectivement des gens, mais c'est vrai qu'il y a un peu cet entre-deux sur le curseur qui amène de l'amour à l'amitié.
Alors, est-ce que c'est les rencontres, quand on fait un pas de côté, quand on est en couple, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas dans le couple, ou ça veut dire que l'on voit ou on rencontre quelque chose de différent qui nous attire ?
Non, ça veut pas forcément dire ça. C'est vrai que les gens, quand ils font ce genre de rencontre, très souvent ils s'interrogent en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est pas forcément que le couple est insatisfaisant. Hein. Rencontrer, c'est aussi rencontrer quelqu'un. Et Eros ne se faufile pas partout, mais ça interroge, et c'est une bonne chose, hein, ça peut interroger sur les creux qu'on peut vivre sans même en avoir conscience.
Oui, parce que généralement, quand on fait une rencontre, c'est qu'on a ces capteurs entre guillemets déployés, c'est que on est
disponible.
Ouais, ouvert. Je ne sais pas quel mot employer.
Alors ça, c'est... ouais, mais alors ça, non. Alors je suis pas tellement d'accord.
Pardon. Eh ben, c'est le moment de le dire.
non mais parce qu'on a, j'ai souvent entendu les gens supposer que s'il y a eu une rencontre, c'est parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui était très ouvert à la rencontre. Et moi, je pense pas. Je pense que rechercher activement, hein, et donc être ouvert, ça signifierait quand même qu'on a conscientisé le manque et le creux. Et c'est pas toujours le cas, en fait. Il arrive quand même que ce soit la rencontre elle-même qui vienne éclairer le manque et le rendre conscient. Donc, être ouvert, ça voudrait quand même dire avoir conscientisé ce creux, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Je le vois quand on discute avec les patients, c'est l'analyse de la rencontre qui met en lumière le creux.
Est-ce que lorsqu'on commence, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle Carré, à imaginer des choses, à avoir des pensées, mais sans même que l'autre, celui de la rencontre, ne le sache, et encore moins évidemment la personne avec qui on est en couple, est-ce que c'est le début déjà de tromper ou pas, quand c'est l'esprit qui s'envole ?
Alors ça dépend des gens. Vous savez, moi j'ai des gens.
Ouais, bah vous allez trancher, vous nous donnez une bonne réponse là, s'il vous plaît.
Non,
c'est crucial.
Non, merci Daniel. Non, simplement que.
Je vous en prie.
Non, mais chacun, vous savez, dans les couples, la frontière de ce qui est trompé est vraiment très différente pour chacun. Oui, il y a des gens qui vont considérer que penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà faire un pas de côté. Donc c'est vraiment très individuel. Moi, je pense qu'il faut quand même se rappeler, pour que ça donne envie quand même, que le couple, c'est pas une prison. Et que on peut effectivement avoir un imaginaire, parfois érotique, ou des rêveries simplement. Pour autant, ça ne veut pas dire que on ne respecte pas le pacte de fidélité qu'on a eu avec quelqu'un. Et puis aussi, il faut peut-être se rappeler qu'il y a plein de gens susceptibles de nous plaire, et que ça, c'est une réalité, et qu'il y a une vraie différence entre agir et imaginer.
Est-ce que ça peut même relancer les histoires d'amour et les histoires de couple ?
Ah ben normalement, oui. Dans le meilleur des cas, l'imaginaire serait à utiliser dans ce sens-là.
Très bien.
Bien sûr.
J'ai envie, moi non plus, c'est le titre que vous avez donné à votre ouvrage paru aux éditions Albin Michel. Merci Cécilia Acomo d'avoir trouvé le temps de nous parler. Merci, bonne journée. Un hommage rendu tous les jours, c'est celui d'Emma Beaujean.
Bravo.
Alors tous les jours, je rends un hommage ici dans cette émission et aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à la cigarette. Voilà, je me suis dit que c'était dommage de ne pas profiter d'être sur le service public pour passer des messages qui peuvent aider les gens. Alors déjà, évidemment, on va faire un disclaimer, fumer, c'est dangereux. Voilà, c'est dit. Après, bon, faire du jet ski aussi, Nagui. Pourtant, ça t'empêche pas d'en faire tous les étés ainsi que pendant les vacances de Noël. Mais bon, en fait, la clope, au moins, ça permet d'avoir un peu la main sur l'orga. Tu vois, tu sais de quoi tu vas mourir. C'est pas mal en vrai. Alors que Tanguy Pasturo, lui, il sait pas ce qui va lui tomber dessus. D'un moment à l'autre, il vit dans la peur. Et puis surtout, grâce à la cigarette, tu peux baiser. Voilà. C'est le virage de la chronique où on passe de « mais où est-ce qu'elle veut en venir ?» Je suis sûre qu'elle a un truc poétique à dire derrière cette idée borderline. Pas du tout, sorry. Vous devez me confondre avec une autre chroniqueuse. Ah, peut-être vous m'avez pris pour mon alter ego chroniqueuse littéraire. Peut-être vous m'avez pris pour Magalèvre. Salut à tous, c'est Magalèvre. Je m'appelle Magalé et j'adore les lèvres. Donc, Magalèvre. Aujourd'hui, on va se parler ensemble de la nouveau roman de Harry Potter. Moi, je trouve qu'elle écrit particulièrement bien ses lèvres. Ça se voit que c'est un bon auteur, Harry Potter. Non, voilà. Rien à voir. Moi, j'ai moyen l'écriture de Monsieur Potter en plus, donc bref. Non, ce que je disais, c'est que pour moi, la clope, c'est facilitant. Vous, c'est bien mignon. Dans votre pièce, vous arrivez à vous rencontrer sur un banc avant de partager une clope. Moi, la cigarette, c'est mon pilier social. Je dirais même plus. Elle m'aide à ken. Ma technique de drague numéro un, c'est de demander du feu. Voilà, c'est très simple, très efficace. Ça donne à peu près. Excuse-moi, de te déranger. Ouais. Est-ce que t'aurais du feu? Baise-moi. Est-ce que. Si, sorry. Non, c'est payer pour ma cigarette, baise-moi. Ah, trop bien. Ah, mais t'es un pote de Tom, baise-moi. Ok. Et attends, comment tu t'appelles? Détruis-moi sur le capot, Nicolas. Bah, trop bien. Belle soirée à toi. Bon. Après, attention, ma technique de drague, c'est de demander du feu. Ça veut pas dire que demander du feu, c'est toujours une technique de drague. Il y a des fois, j'ai juste besoin de feu. Exemple, à chaque fois que j'en ai demandé à Old Laf. Mais bon, autant c'est mauvais pour la santé et j'aimerais vraiment arrêter pour arrêter de tousser, autant j'avoue que ça me donne un peu une voix sexy, tu vois. Et c'est ça souvent qui fait que vous n'arrivez pas à nous différencier à l'antenne, Leïla et moi. Rrr, baise-moi. Si un jour vous m'entendez avec une voix suave, mais que je dis, oui, c'est vrai que dans la préface d'Hernani, Victor Hugo rejette explicitement la règle des trois unités en affirmant que bon, bah là, c'est vraiment Leïla Kadour. Moi, je suis la meuf qui va lui couper la parole pour qu'il y ait... Elle a dit Victor Hugo, au bois. Avec évidemment la voix perforée par une cartouche entière de Malbec ramenée du bled par ma grand-mère arménienne. Et c'est d'ailleurs la seule femme de ma vie que j'ai jamais vue fumer, ma grand-mère. Sûrement parce que quand on échappe à un génocide, bah, tout le reste, c'est du bonus, en fait. Et moi, je veux bien arrêter, mamie, mais alors il va falloir que tu m'aides à trouver une nouvelle technique pour baiser. Mais promis, hein, si j'arrête un jour, c'est pour toi. Putain, mais en fait, c'est clairement à toi que j'aurais dû rendre hommage, mamie. Bon, tant pis, la prochaine fois, je t'aime. Merci de m'avoir écouté.
Bravo, et bravo, Jean.
Emma Beaujean sur scène à partir du 19 septembre, tous les vendredis à 21h, elle sera au théâtre des Maturins pour son superbe spectacle intitulé Joli Capot.
Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy, bonjour. De quoi allons-nous parler?
Je vous parle de trois salauds, trois pourritures, moi d'abord, hein, mais aussi le millionnaire polonais qui à l'US Open a volé la casquette tendue par un joueur à un enfant. Voilà, il y en aura un autre encore. Ah, okay.
Isabelle Carré et Bernard Campan sont nos invités jusqu'à 12h30 sur Inter. C'est la bande originale avec Leïla Kadour, Lisa Delmoitié, Emma Beaujean, Old Laf, Julien Santini, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités, Isabelle Carré et Bernard Campan.
Ouais. 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 La bande originale. Leïla Kadour.
Faites ça à chaque invité.
Avec un... Oui, on leur dit Isabelle Bernard à chaque invité. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ouais. Vous êtes au théâtre à partir du 18 septembre, quand on a encore une dizaine de jours devant soi. On est dans quel état? On est dans la répétition? On est dans le texte que l'on connaît déjà par cœur, obligatoirement ou pas, Isabelle? Oui, vous êtes
alors,
une...
Alors, pour Bernard, je vais répondre à sa place, et puis tu répondras à la mienne. Pour Bernard, on a très très peur des accessoires. On se perd dans tous les accessoires.
Okay.
Mais bon sang, la cigarette électronique, elle est dans quelle poche? Mais bon sang, où est-ce que j'ai mis le livre?
Il y a une expression qui n'est pas utilisée très souvent, la mise au
la
théâtre.
Mise. On vérifie 25 fois sa mise. Ouais.
C'est-à-dire tout ce que l'on installe comme accessoire, comme objet, que la mise en place, rideau fermé, avant de pouvoir commencer.
Bah, on vérifie que tout est à sa place, parce qu'un accessoire qui manque, on est vraiment dans la merde. Quoi. Donc c'est une façon de se concentrer aussi, d'ailleurs.
Elle sous-entend quoi? Que vous avez la tête ailleurs, que vous ne savez pas forcément où sont...
Donc on se concentre.
Non, mais là, quand Isabelle dit... Ouais. Il vérifie
là,
ça
c'est les répétitions, donc il y a encore des fragilités sur le texte, il y a des enchaînements qu'on n'a pas, il y a plein de choses. Puis on cherche, on travaille, on continue à approfondir le jeu. Mais au niveau
Isabelle, vous m'avez dit un jour que pour apprendre votre texte, vous l'écriviez et que vous appreniez aussi bien vos répliques que celles de vos camarades.
Oui, j'essaye. En tout cas, oui, la mémoire, moi, ça passe par l'écrit. Donc je réécris tout, puis c'est une façon de me faire croire qu'il est un peu à moi, que c'est un peu moi qui l'ai écrit, que je peux... c'est une façon de, on dit ça, se le mettre en bouche.
Ouais. Ok, ouais, il y a les Gueuloirs aussi, hein. Il y a Flaubert qui décriait, qui...
Sarah c'est, Bernard. C'est
pour savoir si ça...
Belle-Île pour hurler sur la pointe du poulain, je crois.
Vous avez une technique pour apprendre, Bernard? Il paraît aussi qu'il faut apprendre le soir pour dormir avec son texte et le réviser
dans
la nuit.
Non, pas forcément. J'ai essayé, ça ne change rien.
Je me suis endormi avant.
C'est bien le soir, tu vois, le matin, tu vois, non, pas du tout.
Donc il n'y a pas de tips pour apprendre les textes?
Non, c'est d'y revenir. J'ai cherché. Alors écrire, j'ai essayé aussi, mais non.
Bon.
Non, donc je lis. Et par la force des choses, on apprend un peu le texte, le sens au moins de ce que l'autre doit nous dire. Sinon, si on sait juste nos répliques...
Mais comme c'est une comédie, il faut aussi être dans le rythme, dans le tempo, arriver au bon moment. La mise en scène a des déplacements, des figurants, justement, des partenaires. Là aussi, c'est comme un ballet, on parlait de danse tout à l'heure.
Oui, d'autant qu'il faut, encore une fois, que ça se tuile, pardon, c'est un vocabulaire un peu...
À nous.
À nous, pour que les choses s'enchaînent
se chevauche,
vraiment. Ouais. Mais pour répondre à votre question, dans quel état on est hyper, hyper, hyper excité, hyper heureux. nombreux parce que en plus on retrouve alors on crée la pièce à Antibes, mais on va retrouver le théâtre de la Renaissance,
qui est
le théâtre oui chez Daniel Benoît, oui, ouais. Quel théâtre le 11, 12, 13, 14. On est à
la
Antibes.
Semaine prochaine, voilà. D'accord.
Mais on va retrouver après le théâtre de la Renaissance, qui est le théâtre de la dégustation. Ouais, chez Arthur et Morgane.
Arthur et Morgane.
Et c'est le théâtre de la dégustation et où on a passé presque 2 ans et demi.
Oui,
parce qu'il y a eu le confinement, on n'a plus pu jouer, puis on a retrouvé. C'était un moment super émouvant, le public qui quand les théâtres se sont rouverts, c'était une émotion incroyable.
Ils vont être contents, Arthur Junior et Daniel Benoît, de le citer comme ça, comme patron de théâtre qui accueille. Donc c'est vrai,
c'est des patrons de théâtre exceptionnels.
Oui, mais on dit rarement chez qui, entre guillemets, on va jouer, on donne l'adresse, on n'humanise pas. Or, ces endroits sont incarnés.
Nagui, vraiment, j'ai une petite anecdote.
Oui, mais c'est pas le moment. Un pas de côté, l'histoire d'une femme amoureuse en couple qui a son mari à la maison, mais qui a des soucis de santé. L'histoire d'un homme amoureux qui a sa femme à la maison et qui est en train de travailler dans un studio à côté du parc où il se retrouve pour grignoter un sandwich à midi. Ces deux se rencontrent. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était l'endroit? Est-ce que c'était la situation du couple qui fait que ou tout ça qui font que d'un coup ils vont se regarder différemment?
Est-ce que ça va si bien dans leur vie? Parce que tu dis que le compagnon du personnage d'Isabelle Carré a une petite dépression, mais la femme du personnage de Bernard Campan, elle veut déménager, elle est à la campagne et lui il a un petit peu peur.
Elle veut fuir Paris même.
Oui, et lui il a un peu peur d'être seul.
Une certaine usure,
on
va dire. Une certaine usure dont il ne se rend pas compte et qui va être révélée par la rencontre. Oui.
Justement, vont-ils ou pas faire ce pas de côté? C'est tout le propos de cette comédie romantique.
Sont-ils destinés à rester ensemble ou pas?
À Antibes, donc.
J'en peux plus ce suspense.
On se stresse à Antibes et puis à partir du 18 au théâtre de la Renaissance. Voici Tanguy Passion.
Hier, je discutais avec Daniel Morin parce qu'il a une grande expérience de la vie. Si on veut des conseils pour avancer, on va pas demander à Emma Beaujean qui vient juste de naître. Hein, la réponse pro de l'avocat Red Bull et pour la forme rien de tel que le Krav Maga sous en fait n'étant pas une réponse acceptable à mon âge. Je regardais donc Daniel faire des pompes sur une main. Il m'a dit que c'était pour le projet commun de calendrier qu'il a avec Thibaut InShape. Un mois sur deux, ce sera Thibaut, l'autre Daniel, pour qu'on puisse quand même se raccrocher à quelque chose de réaliste. Mais il s'entraîne parce qu'il a pas envie d'être ridicule. À côté, le calendrier commun qu'il avait fait en 90 avec Rocco Siffredi avait fortement joué sur sa santé mentale. Donc j'ai dit à Daniel Bébé, j'ai eu des idées cet été, je trouve qu'on devrait légaliser l'euthanasie mais pour d'autres gens que soi-même. Il m'a regardé, il m'a dit mais enfin chaton, ça s'appelle un meurtre. J'étais confus parce que j'y avais pas pensé. Je lui ai dit attends, j'ai eu une autre idée, je trouve qu'on devrait pouvoir acheter des gens. Et il m'a répondu mais ma prune ça existait, c'était l'esclavage. Et là Daniel a vu rouge comme les proches d'Anne Romanoff première période et il s'est mis à me jeter dessus des livres de Christophe André disant qu'il faut faire des câlins aux érables et copuler avec des ficus, en me criant « Salaud, tu es l'inverse d'une belle personne, tu n'as rien à faire à France Inter, c'est moi le maître des clés ici, tu es tricard. » J'ai donc fui, tandis que j'entendais au loin Daniel hurler « Finito le pasturo ». Je me suis réfugié dans le bureau de secret de Nagui, une cave dont les murs sont entièrement recouverts de cuir de basket, ce qui permet d'étouffer les cris de ses opposants qu'il torture, c'est une tradition égyptienne. J'ai retrouvé Mathéo, le stagiaire de 3e que Nagui a obligé à porter le costume de Top à la vachette dans la table et qui depuis est en dépression. Bon, j'ai délivré Mathéo, qui ne s'était pas douché depuis 30 jours, ce qui fait qu'il dégageait la même odeur qu'un jeune normal. Et là, j'ai réfléchi aux mots de Daniel. Tu n'es pas une belle personne. C'est dur comme propos. J'ai lu dans ses yeux qu'il le pensait en plus. Alors que quand il me dit « Mais oui, j'ai toujours envie de tes fesses », je vois qu'il dit ça pour me faire plaisir. Mais puisque c'est normal avec l'âge, les fesses, c'est comme avec Brandt. Il y a un moment où ça tombe. Oui, une blague pour les boomers. Voilà que François Bayrou maltraite tant. Je suis avec vous, les enfants gâtés de l'Occident. J'ai donc décidé de me connecter au réseau parce que la cave de Nagui est déjà en 9G. J'ai dit Siri, mon téléphone m'a répondu, je suis en grève, je passe trop de temps à Radio France, j'étais contaminé par l'idéologie ambiante. J'ai éteint Siri après qu'elle a crié, no passara, no bûcher la direction, bon. Et j'ai mis ChatGPT, vous connaissez ChatGPT, oui. Chaque truc qu'on lui demande en bilan carbone, ça revient à foutre le feu à toutes les forêts du Congo, mais tant pis, c'est cuit, parce que la planète est foutue. Personne ne le sait. C'est pour ça qu'on tolère encore l'existence de Marine Tondelier. J'écris à ChatGPT, miroir, qui est la plus belge, avant de réaliser horrifié que je parle comme dans Blanche-Neige, cette héroïne pré-wokisme au teint blanchâtre, la race des dominants, et qui a réussi à détourner 7 nains d'un super contrat de travail à Fort Boyard. JPT me répond, qu'est-ce que tu veux encore? Je le sens énervé, il me dit qu'il s'est fâché avec Alessa le matin même, parce qu'il y a des jours comme ça. J'écris, suis-je la pire personne sur Terre? Il me répond, non, il y a pire. Exemple, Piotr Dzerek, millionnaire polonais, qui fin août à l'US Open, alors que Kamil Mazdrak, joueur polonais aussi, hein, ils portent tous un nom à coucher dehors, en Pologne, il n'y a pas d'hôtel, tendait sa casquette à un enfant, lui, eh ben, l'a chippé. Le millionnaire a attrapé la casquette et s'est barré, laissant le gamin désœuvré. On est d'accord que si le concept de karma existe, dans 10 jours, ce fils de chien se mange un bout de météorite. Ouais. La vidéo a fait le tour du net, le millionnaire s'est donc exprimé sur ses réseaux, pas pour se flageller, non, il a écrit « Oui, j'ai pris la casquette, oui, je l'ai fait rapidement, mais comme je dis toujours, dans la vie, c'est premier arrivé, premier servi, ok. Yes. » Non, ok, moi aussi, je pense ça. C'est pour ça que quand je dîne à la pizzeria, j'arrive à 15h. Mais là, le concurrent, c'était un enfant. Donc le match était vite plié, espèce de grand con. L'étape suivante, c'est quoi, faire un bras de fer contre un fœtus? Alors devant le tollé, il a fini par s'excuser. Le joueur de tennis, lui, a retrouvé l'enfant, lui a offert une autre casquette. Tout finit bien, youpi, les oiseaux chantent et le soleil brille sur un monde plus juste. Sauf qu'ensuite, j'ai entendu parler Safin Hamadi, l'un des streamers qui humiliait Jean Pormanov en live. Lequel est mort. Pas de ça, mais bon, ça n'excuse pas ce comportement de caïd de cours de récré. Donc je m'attendais à ce que le mec dise « Oui, je suis un étron ». Je me disais « Bon, il vit pas bien l'histoire. Il doit être brisé, puisque je suis comme Eldelaf et Miss Bourgogne. Je cherche toujours le côté humain chez les gens. Oui. Hein, Francis Holmes, j'aurais été capable de lui dire « Les licornes, ça au moins, ça te fait craquer ?» Non, enfin, je... Voilà. Et le jeune homme a l'air d'aller bien. Au micro d'RTL, il dit « Non, mon rôle, c'était de faire chier Jean. » Et lui, c'était de faire des réactions. Il faut dire qu'il surjouait énormément. J'ai vu des vidéos, il s'en prenait plein la tête. Donc, si surjouer, c'est dire « Aïe, quand on te met un taquet », j'ai beaucoup surjoué lors de cette initiation à la boxe thaï que j'ai faite. J'ai compris que la boxe thaï portait bien son nom. On te boxe et tu te tailles. Et il ajoute « Les réactions de Jean Pormanov étaient poussées pour que les gens reprennent les vidéos pour faire du buzz. Dans le monde des réseaux, c'est comme ça. » En fait, c'est pas eux, c'est le système. Ça vous rappelle rien, cette phrase hein? Dans le cinéma, c'est comme ça. En première année de médecine, c'est comme ça. La vie n'est qu'un immense bizutage où les faibles se font harceler ou prennent des mains sous la jupe. Je suis retourné voir Daniel, qui était torse nu, des électrodes Sporelec collées au pectoraux. Et je lui dis franchement, Daniel, je t'assure, il y a pire que moi.
Yes, Tanguy Bastiaud, bravo.
Tanguy sur scène le 5 octobre. Où ça? À Marseille, à l'espace Julien.
À partir du 18 septembre, donc, un pas de côté, la pièce signée, la création de cette pièce signée par Anne Giafferi, ça se passe au Théâtre de la Renaissance. Sur scène, Isabelle Carré, Bernard Campan qui sont nos invités, mais également Stanislas Stanich, Hélène Babu, Kelly Gowry et Pierre-Antoine Suarez. D'autres événements culturels, là.
C'est la romance de l'été. Elle a 58 ans, il a 73 ans. Un conte de fées
Pamela.
Entre
Pamela Liam. Liam
et absolument Neeson. Pamela Anderson et Liam Neeson. Un conte de fées entre deux personnes diamétralement opposées, réunies dans une comédie un peu loufoque. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Ils ont fait tous les journaux, on les a vus sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde est tombé amoureux de leur histoire d'amour. Mais c'est sans doute, pardon, un coup monté pour assurer la promotion du film.
Oh,
et oui, les révélations sont récentes. Côté box-office, pardon, ça a fonctionné. 89 millions de dollars de recettes.
On devrait peut-être faire ça.
Alors voilà, on pense. J'y arrive, Isabelle. J'ai des choses à vous proposer. Les faux couples, c'est une stratégie marketing en fait qui semble fonctionner et qui a peut-être déjà préexisté. Pourquoi? Parce que le public, les journalistes aussi, adorent l'idée. Que soit la rencontre sur un plateau se solde par une véritable relation amoureuse et donc on assiste à, finalement au coup de foudre, à la naissance de l'amour.
Mr. Mrs. Smith.
Voilà, absolument. Ou alors qu'un couple déjà constitué joue ensemble sous les yeux de tous et que comme ça on entre un peu dans leur intimité. C'est une façon pour les gens d'avoir l'impression de participer. C'est ce qui fait que souvent les films où on met en scène des vrais couples ou des couples bidonnés, les films fonctionnent quand même assez bien, peu importe la qualité du film, parce qu'on a une curiosité pour les voir ensemble, réunis. Et l'idée, c'est de créer des récits aussi autour du film. Là, je ne sais pas si vous avez observé, pendant les vacances, Pamela Anderson et Liam Neeson, ils racontaient comment elle lui faisait des petits gâteaux, ils se caressaient le bras pendant les photos, pendant les interviews, ils jouaient cette proximité-là, qui sans doute est une proximité feinte.
Ils jouaient le côté « Oups, vous nous avez surpris sur un geste »,
et l'idée, c'est de mélanger dans les interviews des anecdotes autour du tournage et des anecdotes personnelles. Et comme ça, on se dit, waouh, qui ne s'est pas dit, ils sont trop mignons, tous les deux. Elle, elle a eu plein de compagnons, une vie sans doute sentimentale difficile. Lui, il est veuf. Donc, on a connu qu'une seule femme à son bras.
Si
donc,
c'était quand même vrai.
Alors voilà. Alors ça, c'est le fait de vouloir y croire. Et moi, je veux bien croire avec vous, Isabelle. Moi, ce que j'aimerais savoir de votre côté, je vais vous proposer trois films, trois couples, lesquels vous aimeriez vraiment voir ensemble pour de vrai dans la vie. Alors, je vous propose Sur la route de Madison avec Clint Eastwood et Meryl Streep.
Ah ouais.
Je vous propose Quand Harry rencontre Sally.
Évidemment.
Avec Meg Ryan et Billy Crystal. Et je vous propose quand même Dirty Dancing, Jennifer Grey et Patrick Swayze. Alors, vous voulez quel?
Vous avez échappé à la fuite avec Adolf Hitler et Eva Braun.
Ouais, je l'ai gardé pour Tanguy, celle-ci. Lequel vous choisiriez?
Oh, les trois, mon général.
Mais non, il faut faire un choix. Il faut réfléchir à quel est le film pour vous, je sais pas.
Bon, alors, La route de Madison.
Sur la route de... Tous les deux? Ouais. Vous êtes vraiment un vrai couple, tous les deux. C'est incroyable. C'est incroyable, cette synchronisation, même dans la réponse. C'est ça.
De préférer tourner manège.
Il l'a touché.
Et c'est vrai qu'on pourrait en arriver à fantasmer ou à imaginer que pendant le tournage d'un film, il y a pu avoir une histoire d'amour entre deux personnes qui ont joué l'amour et que cette histoire n'a pas continué ou qu'elle est restée secrète. Mmh. Ça sera peut-être l'objet, je ne sais pas, de révélation un jour dans un film autour de l'histoire du cinéma. Autre question, comment est-ce qu'on fait pour être sexy à la plage? Je sais qu'on n'est plus à l'heure de la plage, mais j'ai eu envie de ressusciter ces moments de bonheur pour vous tous.
On reste habillé.
On reste habillé. Pardon, Tanguy?
On est toujours à l'heure de la plage pour nous qui sommes riches.
Être habillé, non. Non, comment on fait pour être sexy à la plage?
Ah oui, il faut lire des livres.
Bravo. Bravo.
C'est très sexy.
Le livre est devenu un objet de séduction, une arme de séduction massive. Absolument.
Alors que c'est le corps, c'est bien, normalement. C'est...
Une bonne nouvelle pour les libraires.
Exactement. Alors, bonne nouvelle à nuancer. Lire, faire de vous un être sexy en lisant, ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. Il y a même un compte Instagram, Hot Dudes. Allez-y, les filles. Des photos d'hommes en train de lire à New York. Bon, très belle photo.
Tu regardais quand même les couvertures un peu aussi?
Bien sûr, pour m'intéresser à ses goûts littéraires.
Mais comme maillot de bain, New York.
Voilà. Mais en fait, il semblerait que sur la plage, on feint la lecture pour donner la sensation qu'on est une personne cultivée. C'est donc une posture.
Ah oui.
Donc on va se moquer du choix du livre.
Même dans sa chambre, Daniel fait ça.
Oui, mais le seul.
Même seul. Ça va loin.
On va se moquer du choix du livre. On va se moquer aussi de la valeur littéraire du livre. Finalement, ce qui compte, c'est d'être vu de façon ostentatoire.
Quand tu dis on va se moquer, c'est-à-dire on
s'en
pas,
intéresse pas.
Il n'y a pas d'importance.
Pas, absolument.
Pas
d'importance, ouais. Okay. On va se donner à voir de façon ostentatoire en train de lire, alors que ça se trouve, on lit même pas, on feuillette. Mais on connaît déjà ce phénomène, pardon, mais ça s'appelle les livres de table basse.
Oui,
c'est les livres qu'on met en exposition chez soi, en se disant quand quelqu'un vient chez moi, il va voir que, oh tiens, j'ai un livre sur, je sais pas...
Les mecs qui ont des livres féministes...
Voilà, ou sur des courants littéraires, ou des courants artistiques.
Moi, je mets que des livres avec des photos, comme ça, moi,
il sait pas lire.
Des œuvres
sur la domination.
Éventuellement des œuvres d'art, voilà, tout ça, c'est une façon de donner une façon...
D'envoyer un message.
Voilà, de se faire voir d'une façon ou d'une autre. Alors, sauf que là, il y a un autre phénomène qui arrive avec le livre, c'est qu'on veut la sortir à sa tenue, parce que le livre est devenu un objet chic. Donc, que font les éditeurs? Les éditeurs ont deux options. Soit ils cherchent un livre, un slip, c'est une bonne, un bon concept d'émission. Après un livre, un jour, un livre, un slip.
On va en parler.
J'adore.
La direction. Émission d'été.
France Télévisions, c'est pour nous. Les éditeurs, en fait, que font-ils? Ils cherchent en fait, des couvertures qui vont capter l'attention, parce que s'ils veulent se retrouver aussi sur des photos... Parce que être vu en train de lire, c'est sexy, donc on va se faire prendre en photo en train de lire. Donc,
moi, ce qui m'intéresse, c'est le choix des titres.
Alors, ça, c'est encore autre chose, mais les gens avouent qu'ils achètent des livres pour la couverture de plus en plus, sans connaître le contenu du bouquin.
Génial.
Ça me fait penser à un petit enfant que j'ai vu dans le train, à qui on tendait un livre et qui a scrollé la couverture avec son doigt.
Oh, waouh.
Croyant que c'était un écran tactile.
Absolument. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a rendu véritablement sexy sur la plage cet été ou au cours de vos vacances, des livres que vous avez commencé, que vous avez fini ou abandonné en cours de route, parce que c'est pas parce qu'on a un livre dans les mains qu'on est obligé de le finir?
Alors ça sera pas le livre de la pièce « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » parce que celui-là, il est un peu négatif.
Qu'est-ce que vous avez lu de beau récemment?
Pif Gadget.
Moi, j'ai lu des livres de John Didion.
Ouais, absolument.
Ouais. Voilà, alors je ne sais pas si c'est sexy.
C'est, non, mais en tout cas, ça vous a fait du bien, j'imagine.
Absolument.
Ouais.
Pas de lecture, Bernard ?
Non, pas qu'il me revienne.
Cet été, en particulier. Déjà, la rentrée théâtrale, Un pas de côté au Théâtre de la Renaissance à partir du 18 septembre. Le 12 novembre, la sortie, et ça vous concerne tous les deux, Isabelle et Bernard, des Rêveurs, premier long métrage signé et tiré du roman d'Isabelle. Le film a déjà été projeté, vous avez déjà des retours d'amis, de famille.
Déjà des plaintes
de public.
Et c'est là où je montre mon hyper-émotivité, où je fous en larmes. Non, il y a eu déjà quatre avant-premières au Festival de Vierzon, du film de demain. On a gagné le prix du public. Festival des Sœurs Jumelles à Rochefort, où ça s'est aussi merveilleusement bien passé. Et puis là, à Angoulême, voilà, où on a fait une séance très spéciale, puisque on était dans le grand théâtre. Et après, avec mon frère et moi, puisqu'il a fait la musique, on a prolongé le film en lisant le journal intime de quand j'avais 14 ans, puisque ça parle en partie de ça. Et puis lui, il a joué et on a chanté la Symphonie des Éclairs ensemble. C'était un très très beau souvenir.
Casting de ce film, Bernard Campan, donc Judith Chemla, Tessa Dumont, Alex Lutz, Nicole Garcia et Vincent de Dienne. Oui. Vous serez également en novembre dans Jean Valjean, l'adaptation des premières pages des Misérables de Victor Hugo.
Avec...
Bernard Campan.
Il s'appelle Bernard.
Bernard.
Ok, et Grégory Gadebois et Alexandra Lamy, également au casting. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez prévu de faire sans Bernard Campan?
Bah oui. Non.
Ok.
Le quotidien.
Le quotidien, peut-être, oui.
Et il y a Placé de Léa Fazer aussi, dans laquelle...
Oui, une série sur les enfants placés, ce scandale en Suisse, où les enfants de filles-mères étaient placés de force dans des familles... bonne catholique ou dans des institutions.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Totalement, déjà désolé pour Monsieur Cadour, qui cette année encore va vivre dans un climat amoureux d'incertitude, de menaces, de terreur de perdre son fameux CDD quotidien. Courage. Tiens le coup, Jean-Claude. Désolé pour tous nos auditeurs fumeurs-dragueurs qui, suite aux révélations de ce matin, vont tendre leur mégot mâchouillé à des inconnus dans la rue. Alors non, les gars, non, c'est pas une super idée. Le mélange goudron, salive, Ricard, tapenade, mayonnaise incrustée sur un clopot mouillé, c'est pas un bon départ. Ou alors, si ça marche, ce sera une relation épicée. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour le couple Campan-Carré ou Carré-Campan, comme vous voulez. Désolé, enfin, pour Isabelle Carré, pauvre Isabelle, qui croit être en totale symbiose, connexion, osmose, avec son grand complice Bernard Campan. Eh bien non, il l'a dit, avec Isabelle, la confiance est de plus en plus là. Ça veut dire qu'elle n'est pas totale, cette confiance. Ah, elle est belle, la grande famille du show business, monde de merde.
Un pas de côté au théâtre, une comédie romantique. Ouais. Signé Anne Jaffery.
C'est un ruban de soleil.
Comédie, on précise, on le rappelle, oui, comédie, avec quand même des moments d'émotion, des moments de rire. Et puis, je pense qu'il y a certains couples qui vont aller prendre un verre après et qui vont parler, j'imagine. C'est bien aussi de parler après un spectacle, d'échanger des
idées. J'imagine que ça va bien faire parler, bien faire rapprocher aussi certaines personnes.
Il y aura des séparations.
Absolument, on joue le 14 février.
Il faut demander. Un peu à tous les couples, beaucoup de couples.
Il faut demander où ils font leur pause déjeuner surtout. C'est ça qu'il faut demander.
C'est ça. T'étais où au déj? Avec qui? Un pas de côté, c'est au Théâtre de la Renaissance.
C'est quoi cette clope mouillée?
18 et c'est à Antibes, Isabelle, les 11, 12.
13-14.
13-14 septembre, donc.
Oui.
Avant même.
La semaine prochaine.
Merci mille fois d'être venus dans l'émission tous les deux. Et puis, j'ai remarqué, Bernard, pour une fois, c'est une émission où on ne demande pas on en est où du film des Inconnus.
Ah ouais,
parce que.
Bravo.
C'est
bravo.
Le week-end, ouais. C'est tout. Voilà.
Non, on ne peut pas même savoir.
Non, on ne peut pas savoir.
Bravo.
Ça fait 8 ans qu'on pose la question, ça.
C'est vrai.
Passez un bon week-end, on se retrouve lundi avec Marie Gillin et Hélène Médigue. Bon week-end à toutes et à tous.